Le sermon suivant a été traduit de l'anglais à l'aide de l'intelligence artificielle. Salutations, amis et frères, ici le Dr Bob Tay pour l'Église de Dieu. Vous arrive-t-il de vous examiner avant la Pâque? Savez-vous que vous êtes appelé à le faire? La Pâque est une commémoration annuelle de la mort de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Avant de participer au symbole de son corps brisé et de son sang versé, nous sommes appelés à nous examiner. C'est un événement annuel qui a lieu le 14e jour après le coucher du soleil du premier mois du calendrier sacré. Ce mois est appelé Abib ou Nissan et correspond généralement au mois d'avril. Il peut parfois s'agir du mois de mars. Nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. Je vais commencer par le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Car d'où vient cette idée de s'examiner soi-même avant la Pâque? De la Bible. À partir du verset 23, chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, Paul écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. » Il tenait donc cela de Jésus. Il dit « La nuit où il fut livré, il prit du pain, et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci. » Toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et à quelle fréquence cela se faisait-il? Une fois par an. Verset 27. C'est pourquoi, quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour cela que parmi vous, beaucoup sont faibles et malades, et plusieurs sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. On nous dit donc que nous devons nous examiner, et que ce que nous ne faisons pas sera jugé. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin de ne pas être condamnés avec le monde. Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à nous examiner avant la Pâque. Nous ne sommes pas censés imiter le monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 17, l'apôtre Jean écrit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Tant que nous vivrons dans cette société influencée par Satan, nous serons confrontés à des épreuves et à des tentations de transgresser la loi de Dieu. Si vous lisez la première épître de Jean, allez au chapitre 2, au premier verset, car Jean y parle des vrais chrétiens et de leur pratique. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher lui aussi comme il a marché. Si vous ne vous efforcez pas de respecter les 10 commandements, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Pour plus d'informations à ce sujet, vous trouverez une brochure gratuite en anglais sur notre site web www.ccog.org. Cela ne signifie pas que nous ne péchons jamais. Si vous êtes encore dans la première épître de Jean, revenez au chapitre 1. Je voudrais lire les versets 8 et 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Lorsque nous sommes tentés par diverses convoitises de tricher, de mentir en affaires, de nous vanter, de médiser, de commettre l'adultère, ou quoi que ce soit d'autre, nous ne devons pas pécher. Si nous péchons, nous pouvons être pardonnés. En tant que chrétiens, et plus particulièrement ceux qui sont véritablement appelés et rachetés, il nous arrive de tomber dans le péché. Tant que nous nous repentons et nous efforçons de le vaincre, Dieu nous accepte, appliquant le sacrifice de Jésus, et continue de nous guider. Nous vivons désormais sous sa grâce. Nul n'est digne du sacrifice du Christ, mais ne pas célébrer la Pâque, c'est renier le Christ. Pour célébrer dignement la Pâque, il nous faut nous repentir de nos mauvais désirs et de nos mauvaises actions, en venir à haïr le péché pour lequel Jésus a dû souffrir et mourir, et nous efforcer d'orienter notre volonté afin de ne pas transiger avec la loi de Dieu. Ouvrons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, et lisons quelques paroles de Jésus à partir du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il nous faut dépasser les conventions sociales de la société dans laquelle nous vivons. Certes, nous ne pouvons atteindre la perfection par nous-mêmes. Inutile d'aller jusque-là, mais le psaume 18, verset 32, dit « C'est Dieu qui me donne la force et qui rend mon chemin aisé ». Célébrer la Pâque et en comprendre la signification, tout en s'efforçant d'observer toutes les autres lois de Dieu, est essentiel pour atteindre la perfection dont parle Jésus. Penchons-nous sur un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, et plus précisément au verset 6. Votre fierté n'est pas bonne. Ignorez-vous qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nous nous examinons avant la Pâque. Immédiatement après la Pâque, le soir même, commence la fête des pains sans levain. Ces deux fêtes sont liées. Verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Nous proposons une brochure intitulée « Faut-il célébrer les fêtes saintes de Dieu ou les fêtes démoniaques ?» Nombreux sont ceux qui ignorent la signification des fêtes saintes, leur date, leur nature et leur raison d'être. Cette brochure répond à toutes ces questions et inclut un calendrier indiquant les dates de ces fêtes selon le calendrier romain le plus couramment utilisé aujourd'hui. Vous trouverez cette brochure, en anglais, sur notre site web. Nous sommes censés nous débarrasser du vieux levain. Le levain est un symbole de péché et d'hypocrisie, et nous devons l'éliminer. Concrètement, nous retirons le levain de nos maisons avant le premier jour de la fête des pains sans levain. Ne vous croyez pas si spirituel que vous n'ayez aucun problème à surmonter. Ne pensez pas être si spirituel que vous soyez dispensé du rituel annuel de purification de vos maisons et véhicules. Il y a des leçons à apprendre. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, je vous suggère de lire ce passage. Il ne s'agit que d'un seul verset, mais je pense qu'il mérite votre attention. L'apôtre Paul a écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. » Ainsi, avant la Pâque, il est temps pour nous de nous examiner, comme Paul l'a écrit ailleurs. Passons à l'Évangile selon Matthieu. Actuellement, tout le monde n'est pas appelé et cela prête parfois à confusion. Matthieu chapitre 13. Je voudrais commencer par le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Car à celui qui a, il sera donné davantage, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et qu'ils ne comprennent pas. Et en eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe, qui dit, « Vous entendrez, vous ne comprendrez pas, et en voyant, vous verrez, vous ne percevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est endurci. Ils ont les oreilles dures, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent avec leur cœur et ne se convertissent, pour que je puisse les guérir. » Le monde entier n'est pas appelé actuellement. Nous avons une brochure intitulée « Dieu vous appelle-t-il ?» au cas où vous vous demanderiez si vous faites partie de ceux qui sont appelés en ce moment. Seuls les élus sont appelés actuellement, et vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la brochure. Nous disposons également d'informations sur le moment où les autres seront appelés. Une partie de ce sujet est abordée dans le livre mentionné précédemment, intitulé « Faut-il observer les jours saints de Dieu ou les fêtes démoniaques ?» Les fêtes saintes de Dieu sont liées à la saison des récoltes en Palestine. La moisson printanière, qui représente les élus, montre que seuls certains sont appelés maintenant. Les autres auront leur chance après le retour de Jésus, ce que symbolise la moisson d'automne. La vérité, qui donne à réfléchir, est que nous avons été appelés à une vocation particulière en ce temps-ci, à nous distinguer des autres afin d'être utilisés par Dieu, le Christ, pour apporter la connaissance et le salut à l'humanité entière. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu se soucie de nous à l'approche de la Pâque. C'est un élément important de son plan et il est attentif à notre attitude. Il veut savoir que nous nous sommes entièrement abandonnés à lui. Si ce n'est pas votre première Pâque, avez-vous surmonté des difficultés depuis la dernière? Avez-vous vraiment fait des efforts? Vous vous demandez peut-être ce que signifie discerner le corps du Seigneur ou comment il est possible de manger et de boire indignement. Et comment pouvons-nous nous condamner nous-mêmes? Sachez que Dieu souhaite que nous nous concentrions chaque année à la Pâque sur une perspective fondamentale. Il veut que nous nous focalisions sur un concept essentiel au moment de revivre son plan de salut pour l'humanité. Ce concept essentiel, c'est son salut empreint d'amour. C'est la l'essence même de ce plan, qui nous concerne personnellement ou qu'il concerne le reste du monde. Ainsi, mes frères et sœurs, la Pâque est un temps pour nous recentrer sur les principes fondamentaux de notre salut et de notre relation avec Dieu et son œuvre. C'est le moment de nous examiner, de nous regarder en face. Nous sommes parfois tellement absorbés par notre travail, nos occupations quotidiennes et les distractions de la vie que nous oublions la nécessité de nous réconcilier avec Dieu. Avant la Pâque, il est clair que vous ne devez pas vous focaliser sur les péchés d'autrui. Ne pensez pas, je n'ai pas besoin de m'examiner, je suis au-dessus de tout ça. Non, vous êtes censé vous concentrer sur vous-même. C'est le but de la préparation de la Pâque. C'est peut-être pour cela que certaines personnes subissent davantage d'épreuves avant la Pâque, car Satan ne veut pas que vous vous examiniez. Il ne veut pas que vous vous rapprochiez de Dieu. La Bible dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Satan ne veut pas fuir loin de vous, il veut s'approcher de vous. Plus vous êtes proche de Dieu, moins il peut agir ainsi. La vie chrétienne n'est pas censée être statique. Il est dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, inutile de chercher plus loin. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Triompher demande des efforts. Ouvrons le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Je vais y lire quelques versets. Commençons par le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Passons maintenant au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On le lit souvent dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Celui qui vaincra ne sera pas blessé par la seconde mort. Si vous ne voulez pas mourir de cette seconde mort, vous êtes appelé à vaincre. Voyons le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens refusent d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ils ne croient pas à la hiérarchie des églises. Ils refusent d'examiner ces choses car elles pourraient les concerner. Ils sont peut-être comme Laodicée. Ils ont peut-être besoin de changer. Même si vous n'êtes pas comme Laodicée, vous devez changer. Nul n'est parfait en cette vie. Nous sommes appelés à tendre vers la perfection. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai aussi une pierre blanche, et sur cette pierre un nom nouveau écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Passons maintenant aux versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer. Elles seront brisées comme les vases d'argile, comme je l'ai aussi reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse 3. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et le verset 21 du chapitre 3 de l'Apocalypse dit: À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il vous faut vous examiner vous-même pour pouvoir vaincre. En résumé, vous devez vaincre Satan, son association et vos propres convoitises. Passons maintenant à l'Apocalypse 21, versets 7 et 8. vous verrez une autre récompense à la clé. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Les incrédules sont ceux qui refusent d'agir selon leur foi. La Bible enseigne que Satan est le dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, et qu'il trompe le monde entier, Apocalypse 12, 9. En tant que chrétiens, nous devons aimer la vérité et ne pas tomber dans le piège de Satan. Nous allons étudier l'Évangile selon Jean, chapitre 17, à partir du verset 16. Vous pouvez donc vous y rendre. Je vais lire quelques versets. Jean 17, à partir du verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Aimez-vous vraiment la vérité? Si oui, mettez-vous en pratique ce que Jésus a dit dans Matthieu 6h33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu par sa justice. Cherchez-vous vraiment le royaume de Dieu? Pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, nous proposons une brochure intitulée « L'Évangile du royaume de Dieu ». Cette brochure est disponible en une centaine de langues. Sur le site www.ccog.org, faites défiler la page vers le bas. Vous y trouverez une liste de langues sur la gauche. Cliquez sur la langue de votre choix pour accéder à la brochure et à toute autre publication disponible dans cette langue. Passons à Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise, avec l'espérance. Je préfère la version de la Bible du roi Jacques qui dit « Car la créature a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise, avec l'espérance. Parce que la créature elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons, en effet, que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Et non seulement eux, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Si quelqu'un voit, qu'espère-t-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Il nous faut donc être patients et attendre. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous devons reconnaître que nous sommes faits chers et sujets à la vanité. Satan a succombé à sa vanité, et pourtant il ne s'est même pas incarné. Il s'est trompé lui-même. Nous ne sommes pas censés succomber à notre propre vanité ni à notre tendance à l'auto-illusion. Prendre le temps de s'examiner est bénéfique. Dieu veut que nous soyons meilleurs. Et pour ce changement, nous avons l'espoir. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui vous inclut, comme Jésus l'a dit dans Marc 10, verset 27. Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu, car pour Dieu, tout est possible. Plus nous nous examinons et nous soumettons à Dieu, plus nous nous rapprochons de la perfection et développons le caractère qu'il souhaite pour nous. Vous pensez peut-être, « J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, il faut persévérer. » Dans Philippiens 1, verset 6, l'apôtre Paul, inspiré par son inspiration, écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Il n'est pas dit que tout est terminé juste après le baptême, ni quelques années plus tard, ni même des décennies après. L'œuvre sera achevée jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il faut donc y travailler constamment. Vous surmonterez certaines difficultés plus facilement que d'autres, mais chacun doit faire sa part. Il faut persévérer et triompher. Passons à la première épître de Jean, chapitre 3. À partir du verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Nous sommes appelés à nous purifier, ce qui fait partie de l'examen de conscience. » Maintenant, je voudrais aborder l'épître de Jacques au chapitre 1. Je souhaite y consacrer un temps conséquent. Je vous suggère donc de vous y rendre, à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement d'iniquité, et recevez avec douceur la parole implantée en vous, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Jacques exhorte ainsi les chrétiens, car c'est à cela que s'adressent tous les chrétiens, à se débarrasser de toute souillure et de toute iniquité. Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nombreux sont ceux qui écoutent la parole et s'illusionnent. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se regarde, s'en va, et aussitôt il oublie comment il était. Il ne voyait donc pas ses problèmes ou s'en désintéressait. Mais celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux mais un acteur de la parole, celui-là sera heureux dans son action. Si quelqu'un parmi vous se croit religieux et ne maîtrise pas sa langue, mais trompe son propre cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous essayons d'aider les veuves et les orphelins. Nous sommes critiqués pour cela par diverses personnes, ce qui est absurde. Passons au chapitre 2, verset 1. Mes frères, n'ayez pas partialité dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Car si un homme entre dans votre assemblée, portant des anneaux d'or et des vêtements somptueux, et qu'il y entre aussi un pauvre vêtu de haillons, et que vous ayez égard à celui qui porte les beaux vêtements, et que vous lui disiez, « Assieds-toi ici, à cette bonne place », et que vous disiez au pauvre, « Tiens-toi là », ou « Assieds-toi ici, à mes pieds ». On le constate parfois dans les attitudes des gens envers différents peuples non-juifs, notamment les Africains et d'autres. D'ailleurs, je suis majoritairement non-juif, mais je ne suis pas africain, du moins pas d'après ce que je peux en déduire. Nous ne sommes pas censés faire preuve de partialité. Il poursuit en disant, « Mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour être riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Dieu ne l'a-t-il pas fait? Oui. Ne méprisez donc pas le pauvre et honorez le riche. » Au verset 8, « Si vous accomplissez véritablement la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, se rend coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez donc comme des gens qui doivent être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Beaucoup de gens visitent notre site web, lisent nos articles et ne passent à rien. D'autres regardent nos vidéos et pensent en faire assez. Ils ne cherchent pas à suivre la voie de Dieu. Mes frères, à quoi cela sert-il de dire qu'on a la foi? Si l'on n'agit pas, la foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. C'est aussi pour cela que nous soutenons les veuves, les orphelins et les pauvres. Verset 18. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi ?» Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Même les démons le croient, et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme insensé, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Vois-tu que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi était rendue parfaite? Ainsi s'accomplit l'Écriture qui dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » C'est l'une des raisons pour lesquelles Martin Luther n'appréciait pas ce livre de la Bible. Il contredisait certains de ses enseignements. De même, Rahab la prostituée ne fut-elle pas justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, ne vous trompez pas vous-même. Pratiquez la miséricorde, observez la loi royale de Dieu et souvenez-vous que la foi sans les œuvres est morte. C'est le moment idéal pour vous examiner et reconnaître que nous avons tous, vous et moi compris, une nature sujette à la vanité. La plupart des gens ne perçoivent pas le danger de la vanité ni celui de l'aveuglement. J'ai déjà mentionné que Lucifer a succombé à la vanité et à l'aveuglement. Vous pouvez lire à ce sujet dans Ézéchiel 28, versets 12, 13 et 17. L'humanité, même parmi ceux qui se réclament du christianisme, ignore que ce monde n'appartient pas encore à Dieu. Dieu permet à Satan de régner sur ce monde pour un temps. Il lui permet de séduire les humains en jouant sur leurs propres désirs. Ouvrons la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Satan est actuellement le maître de ce monde et il aveugle les humains à la vérité qu'ils ont le privilège de comprendre. À partir du verset 3, il est écrit « Mais si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, dont l'intelligence est aveuglée par le Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne croient pas, de peur que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille sur eux. » Alors, dans notre examen de conscience, prenons conscience de notre nature et de l'époque dans laquelle nous vivons. Mais, frères et sœurs, pour nous qui sommes les élus, la lumière et la compréhension nous sont venues par l'appel du Saint-Esprit. Par l'infinie miséricorde de Dieu, vous avez été appelés, parmi ces élus, à voir votre propre personne et votre environnement tels qu'ils sont réellement. Vous avez compris que vous étiez pécheurs et incapables de vous sauver vous-même. Passons maintenant au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. J'ai vu diverses personnes, y compris d'anciens membres de différents groupes de l'Église de Dieu, sortir certains passages des Écritures de leur contexte et les interpréter de manière erronée. Ils essaient de vous faire croire que vous n'êtes pas tenu de respecter les 10 commandements et que diverses choses de ce genre ne s'appliquent pas parce que vous êtes sous la grâce. Mais dans Romains 6, verset 1, l'apôtre Paul a écrit « Que dirons-nous donc? Persisterons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Oui, même après le baptême, nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des erreurs. Puisque nous sommes au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, passons au chapitre 7 à partir du verset 15. L'apôtre Paul a écrit « Car je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux. » Paul veut dire par là que je ne suis pas aussi bon que je le devrais ou que je le souhaiterais, mais je fais ce que je déteste. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Ainsi, si vous rencontrez un problème que vous vous efforcez de surmonter sans succès, rappelez-vous que Paul était dans la même situation. Persévérez. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, rien de bon n'habite, car le vouloir est présent en moi, mais non le pouvoir d'accomplir le bien. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi. Le mal est présent en moi, celui qui veut faire le bien, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Paul se réjouissait de la loi de Dieu. Il n'a pas dit qu'elle était abolie. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, a-t-il abandonné? Non. Le verset suivant dit « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par mon esprit, je suis au service de la loi de Dieu et par ma chair, de la loi du péché. » Paul a reconnu faire des erreurs, mais il a aussi insisté sur la nécessité de s'examiner soi-même. Il ne s'agit pas de se dire « J'ai ce problème, ce n'est pas grave, je ne m'en sortirai jamais. » Non, il a dit qu'il fallait persévérer, s'examiner. Paul était conscient de la profondeur du péché auquel il était confronté. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, Jean écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous avons péché, mais nous ne sommes pas en désaccord avec lui. Nous ne péchons pas intentionnellement, mais nous commettons des erreurs. Nous oublions, ou peut-être devenons-nous négligents. Peut-être n'avons-nous pas prié aussi souvent que nous l'aurions dû. Peut-être avons-nous relâché nos efforts. Mais si nous confessons ces péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous nous examinons, nous reconnaissons nos péchés, nous les confessons à Dieu et nous lui demandons pardon. Il nous pardonnera. Certains craignent d'avoir commis des péchés si graves que Dieu ne puisse les pardonner. J'ai déjà évoqué ce sujet. Quel péché serait pire que de chercher à tuer les chrétiens et de commettre ces meurtres dans d'autres communautés, alors que ce n'est pas notre devoir? Vous pourriez penser à d'autres péchés plus graves, mais je prendrai celui-ci. L'apôtre Paul a agi ainsi. Lorsqu'il était Saul, il n'était pas obligé de le faire. Il le voulait. Alors, pensez-vous que ce que vous avez fait est pire? Je ne le crois pas. Tant que vous êtes disposé à confesser vos péchés, Dieu est fidèle et juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera. Passons maintenant à la première épître de Pierre, chapitre 2, en commençant par le verset 1. C'est pourquoi, rejetant toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que, par elle, vous croissiez, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Nous sommes appelés à grandir. Vous savez, les bébés naissent et grandissent. Nous sommes appelés à grandir. Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Si les hommes ont rejeté le Christ et tous ses prophètes, Pierre dit qu'ils l'ont rejeté lui aussi, mais ne le rejetez pas, vous aussi. Comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est aussi écrit dans l'Écriture. Voici, je suis couché à Sion, une pierre angulaire principale, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera en aucun cas confondu. Avez-vous honte de Jésus et de cette Église? Avez-vous rejeté toute malice, toute tromperie, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance? Comprenez-vous que vous êtes des pierres vivantes en train de bâtir une maison spirituelle? Êtes-vous une pierre spirituellement plus forte qu'il y a un an? Passons cette fois à la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui en paix, sans tache et irréprochable, et considérez que la patience de notre Seigneur est un moyen de salut. Et oui, vous devez souffrir, et nous verrons pourquoi un peu plus loin dans ce message. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme on le voit dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses. Il y a là des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent pour leur propre perte, comme elles le font aussi du reste des Écritures. Donc oui, il y a des gens qui déforment les écrits de Paul et qui ne comprennent pas que les chrétiens sont appelés à s'efforcer de respecter les 10 commandements. Vous donc, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'erreur des impies et de perdre ainsi votre fermeté. Lors de l'apostasie qui a frappé l'ancienne Église universelle de Dieu à la fin du XXe siècle, malgré les avertissements, beaucoup ont succombé. Que devons-nous faire? Alors, verset 18, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais. Dieu observe ces fêtes saintes qui nous aident à comprendre son plan de salut. Nous ne voulons pas les aborder avec indifférence. Je l'ai probablement déjà dit, mais je le répète. Il y a des années, avant que l'apostasie ne frappe l'ancienne Église universelle de Dieu, je me rendais à l'office du premier ou du dernier jour des pains sans levain. J'étais sans doute un peu routinier, me disant qu'on allait entendre et faire la même chose, que c'était une routine. Peu de temps après, l'apostasie est arrivée et ceux qui croyaient devoir observer les fêtes saintes de Dieu et la fête des pains sans levain n'y croyaient plus. Apparemment, ils prêtent attention aux sermons. J'écoutais aussi les sermons, mais comme je l'ai dit, c'était devenu une habitude. Et aujourd'hui, il était probablement aussi. J'ai utilisé la première partie de ces notes dans des sermons précédents. Mais aujourd'hui, j'aborderai peut-être d'autres points que je n'ai pas encore traités. Je pense donc que vous n'avez pas encore tout entendu. Personne n'est vraiment digne de la Pâque. Nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes, car nous sommes tous imparfaits, dit la Bible. Nous devons avoir la bonne attitude. Ou bien avons-nous la mauvaise? Ouvrons le livre d'Aguée, chapitre 1. Il se trouve dans l'Ancien Testament. Je vais lire plusieurs versets, en commençant par le verset 2. Aguée, chapitre 1, à partir du verset 2. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel, point. » Certains pensent que le temps d'agir est révolu, que tout a été accompli depuis longtemps. D'autres estiment que leur vie est parfaite et qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Certains disent même que, sauf s'il s'agit d'un grand édifice prestigieux, comme l'auditorium de l'ancienne Église universelle, ce n'est pas le moment d'entreprendre quoi que ce soit. Mais remarquez ce que dit le verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée par le prophète Aguée, en ces termes. Est-ce le moment pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées et pour ce temple de rester en ruine? 5. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Considérez votre conduite. Examinez-vous. Ce passage est tiré directement de l'Ancien Testament. Si vous avez semé beaucoup et vous avez récolté peu, vous mangez, mais vous n'avez pas assez. Vous buvez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous vous habillez, mais personne n'a chaud. Et celui qui gagne un salaire à mettre dans un sac troué. Vous pourriez vous dire, attendez une seconde, surtout si vous vivez dans un pays riche. J'ai tout ce qu'il faut matériellement, donc Dieu m'a béni. C'est l'attitude des Laodicéens dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 21. Haggai parlait des épreuves matérielles qu'il subissait. Il en va de même aujourd'hui sur le plan spirituel. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez votre conduite. Montez à la montagne, rapportez du bois et bâtissez le temple. J'y prendrai plaisir et j'y serai glorifié. Que dit le Nouveau Testament au sujet du temple? Il s'agit de l'Église. Les chrétiens sont le temple de Dieu. Nous sommes appelés à œuvrer ensemble, non seulement pour notre propre salut, mais aussi pour celui des autres. Souvenons-nous que nous sommes appelés à être des pierres vivantes qui bâtissent un édifice. Un bâtiment est constitué de plusieurs pierres. S'il n'y a qu'une seule pierre, ce n'est pas un véritable bâtiment. Ce n'est qu'une pierre stérile. Vous êtes appelés à être productifs. Participez à l'œuvre. Le Seigneur dit, « Vous espériez beaucoup et vous n'avez reçu que peu. Et quand vous l'avez ramené chez vous, les Laodicéens pensent en avoir assez. Je l'ai dispersé. Pourquoi ? Dit le Seigneur des armées. Parce que ma maison est en ruine, tandis que chacun de vous court vers sa propre maison. Vous n'accordez pas la priorité nécessaire à la diffusion de l'Évangile du royaume de Dieu dans le monde en tant que témoin. Vous vous concentrez sur la mauvaise tâche. C'est pourquoi les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée et la terre retient son fruit. En réalité, ce qui arrive aux Laodicéens, c'est qu'ils ne sont pas protégés de l'épreuve qui va s'abattre sur le monde entier pour l'éprouver. Jésus a promis ce type de protection aux Philadelphiens dans l'Apocalypse 3, verset 10. Beaucoup de gens ne considèrent pas cette mission comme prioritaire. J'ai mentionné l'Apocalypse 3 et les Laodicéens. Au verset 15, Dieu dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Par exemple, j'ai réussi à me sortir de l'apostasie. Je suis toujours fidèle, j'observe le sabbat, je respecte les jours saints. Tout cela, donc tout va bien. J'ai été induit en erreur par d'autres. Je n'ai pas vraiment besoin de soutenir l'œuvre authentique de Philadelphie. Nous irons soutenir une œuvre quelconque, ou peut-être une petite œuvre, ou même aucune œuvre du tout si nous voulons être totalement indépendants. Mais Jésus dit, « Et vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. » Au verset 19, il dit, « Même ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Ayez donc du zèle et repentez-vous. » Il veut dire par là qu'il faut s'examiner et changer. Avant la fête des pains sans levain, beaucoup de gens commencent à purifier leur maison. Ma femme et moi, lorsque nous nous sommes mariés, avons commencé plusieurs mois à l'avance. Il n'y avait rien de mal à cela, mais une purification matérielle ne suffit pas. C'est une purification spirituelle dont nous avons besoin. Vous avez probablement déjà réfléchi et vous vous êtes dit, j'essaie de respecter les 10 commandements, j'essaie de respecter les fêtes religieuses, je donne la dîme, j'ai des tatouages, je ne crois pas à l'astrologie, etc. Et c'est bien. Nous espérons que vous faites tout ce qu'un chrétien est censé faire. Vous pensez peut-être aussi que je suis chrétien depuis longtemps, que vous ne pensez pas avoir de péché ou que ceci ne vous paraisse pas évident, mais il se peut qu'il y ait des choses que vous ne comprenez pas vraiment. Par exemple, êtes-vous quelqu'un qui se plaint? Quoi? Passons au livre des Lamentations, chapitre 3. Commençons par le verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. S'il afflige, il fait aussi miséricorde selon la multitude de ses grâces. Car il n'afflige pas de son plein gré, il n'attriste pas les enfants des hommes. Dieu ne souhaite pas que nous souffrions, mais cela arrive, et l'une des raisons de ces souffrances pourrait vous déplaire. Voyons le verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, lui qui reçoit le châtiment de ses péchés? Examinons donc notre conduite et revenons à l'Éternel. L'Ancien Testament nous enseigne qu'il ne faut pas se plaindre de ce que l'on traverse. En réalité, nous sommes punis pour nos péchés. Parfois, nos plaintes ne sont pas dues à nos propres actes, mais aux péchés d'autrui. Ces péchés nous affectent, Mais il y a une leçon à en tirer. Peut-être avez-vous commis un péché sans en subir directement la punition. Mais Dieu, dans sa sagesse, a décidé que l'influence d'autrui nous sera la punition de nos propres péchés. Remarquez qu'il est dit, « Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il qu'un autre soit puni pour ses péchés ?» Examinons donc notre conduite et revenons au Seigneur. Ainsi, les lamentations nous invitent à nous examiner nous-mêmes, à nous rapprocher de Dieu, et nous aurons alors moins de plaintes à formuler. Avez-vous la foi nécessaire pour croire en Dieu et vous examiner sincèrement? Beaucoup de gens manquent de foi. Ils pensent que leurs problèmes n'ont rien à voir avec leurs actions, qui ne sont pas directement liés à leurs péchés. Or, ce n'est pas le cas. Dieu permet que certaines choses arrivent, et si nous nous examinons et nous rapprochons de lui, certains problèmes se résoudront, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. Passons au Nouveau Testament, à la première épître de Pierre, chapitre 4, en commençant par le verset 17. Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Or, si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ce don qui souffre selon la volonté de Dieu s'en remette à lui en faisant le bien, comme à un créateur fidèle. En tant que chrétiens, nous sommes donc davantage confrontés à des jugements correcteurs que les non-chrétiens. Cela semble cohérent avec ce qu'a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 19. « Si c'est seulement pour cette vie que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Mais dans Romains 8, verset 28, Paul, inspiré, écrit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Or, Jude, au verset 16, met en garde contre ceux qui murmurent et se plaignent, suivant leur propre convoitise. Il s'agissait essentiellement de ceux qui se prétendent de vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui cherchent délibérément la difficulté. J'aimerais maintenant aborder un autre passage de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Je vous invite à le consulter au chapitre 10, verset 1. De plus, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que tous nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il s'agit ici du passage de la mer Rouge par les enfants d'Israël, relaté dans le livre de l'Exode. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et tous ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne plaisaient pas à Dieu. Espérons que Dieu vous plaira, car leurs corps furent dispersés dans le désert. Or, ces choses sont devenues pour nous des exemples, afin que nous ne convoitions pas le mal comme ils l'ont fait. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Comme il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour s'amuser. » Ne nous livrons pas à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux, et en un seul jour 23 000 périrent. Ne tentons pas le Christ, comme certains d'entre eux l'ont tenté, et furent détruits par les serpents. Ne murmurons pas, comme certains d'entre eux se sont murmurés, et furent détruits par le destructeur. Vous n'êtes donc pas censé vous plaindre comme ils l'ont fait. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Il dit donc que l'Ancien Testament a été écrit pour les chrétiens, pour qui la fin des temps est arrivée. Puis il déclare, « C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il dit que ce ne sont que des exemples, alors faites attention. Ces gens se croyaient le peuple de Dieu. Ils se sont plaints et Dieu n'a pas été satisfait. De nombreuses plaintes révèlent un manque de foi. Ouvrons le livre de Job, chapitre 2, à partir du verset 7. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et frappa Job d'ulcères douloureux, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Quelle horreur! Et il prit un tesson, c'est-à-dire un morceau de poterie cassée, pour se gratter, assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit alors, « Tu persistes dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs !» Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Accepterons-nous le bien de Dieu et n'accepterons-nous pas aussi le mal ?» De même que nous acceptons les bénédictions de Dieu, nous devons aussi accepter ses corrections. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ceci concerne l'Ancien Testament. Passons maintenant au Nouveau Testament, à l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 12, Jésus parle de nos paroles, des péchés de nos lèvres. Matthieu 12, à partir du verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. 36, je vous le dis, au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. 37, car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Chaque parole vaine prononcée par Jésus. Pour les chrétiens, cela signifie que nous sommes confrontés au jugement ce temps-ci. Passons maintenant à un passage écrit par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Nous allons nous intéresser au verset 26. Paul a écrit « Soyez en colère et ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas prise au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il travaille plutôt, en faisant de ses mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il ne vous est pas demandé de voler, mais aussi d'être productif et de donner à ceux qui sont dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification nécessaire, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. » Ce même principe s'applique à vos écrits, ou, de nos jours, à vos SMS. Vos paroles ne doivent pas être corrompues. Elles doivent servir l'édification ou tout autre but et apporter du réconfort à ceux qui les reçoivent. Passons à Matthieu 6. J'en ai déjà parlé en partie, juste en partie d'un verset, mais nous allons commencer au verset 25 et lire plusieurs versets à partir de là. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Pourquoi donc vous inquiétez du vêtement? Considérez les lys des champs. Comment ils croissent? Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, il est possible d'avoir des difficultés. Essayez de ne pas vous inquiéter et de ne pas vous plaindre. Dans Jean 16, verset 33, inutile de chercher plus loin, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Êtes-vous plein de courage? Passons à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants et qui serons restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Trouvez du réconfort dans la parole de Dieu. Nous savons que l'apôtre Paul et ses contemporains ne sont plus de ce monde. Ils sont décédés. Mais au XXIe siècle, nous avons la possibilité de faire partie de ceux qui seront vivants et transformés lors du retour de Jésus. Vous pensez peut-être, oui, mais Jésus ne revient pas avant longtemps. Ouvrons l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, et précisons que Jésus ne reviendra pas avant 2032. De toute façon, il ne reviendra pas avant plusieurs années. Alors, en attendant, que pouvons-nous faire? Que devrions-nous faire? Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Le vin. L'une des préparations à la Pâque est le délevin. Symboliquement, le levain représente l'hypocrisie et le péché. Le délevin est un moyen de manifester son repentir et sa volonté d'agir selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une pratique courante. La Bible recommande de n'avoir aucun levain dans nos maisons pendant les 7 jours de la fête des pains sans levain. Je vais lire ce passage d'Exode 12:19. Vous n'êtes pas obligés d'y aller. Il est dit, « Pendant 7 jours, on ne trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du levain sera retranché de la communauté d'Israël, que ce soit. Il est un étranger ou un natif du pays. » Non seulement les enfants d'Israël faisaient cela, mais les premiers chrétiens observaient également la même chose. Je vais vous lire un passage de Polycrate d'Éphèse, chef de l'Église de Dieu qui célébrait la Pâque le 14e jour. Dans sa lettre à l'évêque de Rome de l'époque, qui s'y opposait, il écrit « Moi aussi, Polycrate, le plus petit d'entre vous, je me conforme à la tradition de mes proches, dont j'ai suivi fidèlement certains. 7 de mes proches furent évêques, et je suis le 8e. Mes proches ont toujours observé le jour où le peuple se débarrassait du levain. » En cette période de l'année, nous prenons le temps de nous examiner et de purifier nos maisons et nos véhicules. Cela nous invite à la réflexion. Tout comme le levain, le péché est omniprésent. Et tout comme le levain exige des efforts pour être éliminé, le péché aussi. Cela nous montre également que, puisque nous pouvons trouver du levain là où nous ne l'aurions jamais cru, nous pouvons avoir des péchés là où nous pensions qu'ils ne devraient pas se trouver. Parlons un instant du levain. Les aliments levés contiennent généralement de la levure ou du bicarbonate de soude. Le levain fait gonfler les aliments, leur donne du volume. Le pain levé, par exemple, s'émiette. Vous pensez peut-être vous être débarrassé du levain, mais il finira par se retrouver partout dans votre voiture ou votre maison. Il y a des décennies, ma femme Joyce et moi avions fait un travail de d'élevage très minutieux et nous pensions avoir éliminé toute trace de levain. Nous avons ouvert tous les tiroirs et tout inspecté. Pour une raison inconnue, dans la chambre d'un de nos fils, une chambre que nous avions déjà délevée, il y avait un petit paquet. Je ne me souviens plus si c'était un biscuit, un petit gâteau ou quelque chose du genre. Je ne me souviens plus exactement. Nous n'en revenions pas. Nous étions persuadés d'avoir tout enlevé. Le levain est un symbole du péché. Parfois, le péché s'insinue en nous sans que nous sachions comment. Cela arrive, tout simplement. Un autre point important, nous ne conservons pas le levain pour le réutiliser après la période du pain sans levain. Autrement dit, nous ne gardons pas notre vieux levain pour ensuite le réutiliser. Nous voulons nous débarrasser de nos péchés passés. Je vais lire un passage de l'Épître aux Romains, le verset 8, 5. L'apôtre Paul a écrit, « Ceux qui vivent selon la chair ont leur pensée tournée vers les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont leur pensée tournée vers les choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En effet, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Pourquoi mentionner cela ici? Parce que j'ai dit précédemment que certaines personnes consacrent beaucoup de temps à se concentrer sur la purification physique et pas assez à examiner leur propre vie. Personnellement, je fais quelque chose que je recommande à tous ceux qui entreprennent une démarche de purification, réfléchir à ses propres péchés. On trouve souvent le levain physique là où on ne l'attend pas. Il en va de même pour le péché dans votre vie. J'espère que cela vous permettra de réfléchir de manière appropriée et d'adopter la bonne approche. Si vous êtes encore au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, passons au verset 9. Mais vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Cela signifie-t-il que nous ne devons pas nous abstenir? Non, nous le devons toujours. Ouvrons également l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, pour entendre quelques paroles de Jésus. Matthieu 23, à partir du verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'anis et du cumin, et vous négligez les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait faire, sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et avalez le chameau. C'est une préoccupation que nous avons pendant la fête des pains sans levain. Nous voulons bien ce que vous vous débarrassiez du levain, mais aussi que vous vous examiniez vous-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais remplis à l'intérieur d'ossements de mort et de toute impureté. De même, vous aussi, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Nous devons agir concrètement, mais ne nous contentons pas de nous focaliser sur le levain pour paraître juste aux yeux de nous-mêmes. Ne négligeons pas l'essentiel. Les pharisiens agissaient sur le plan matériel, mais en oubliaient l'essentiel. Ils agissaient beaucoup pour l'apparence. Nous ne devons pas les imiter, mais imiter le Christ et agir sur les plans physiques et spirituels comme Jésus l'a fait. Bien que Jésus n'ait pas péché, nous, si, nous devons nous repentir. En cette période de l'année, nous devrions être incités à y consacrer davantage de temps. Il nous faut écouter les exhortations de l'apôtre Paul et nous examiner nous-mêmes. J'ai mentionné que les Lamentations disaient essentiellement la même chose et d'autres passages de la Bible confirment. Certaines personnes ont des difficultés à comprendre le levain. Alors parlons de ses aspects physiques. Voici une liste non exhaustive de quelques agents levants. Levure sèche active carbonate d'ammonium, également connue sous le nom de corne de cerf, bicarbonate d'ammonium ammoniaque de Baker, levure de boulanger, levure chimique bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, carbonate dipotassique, bicarbonate de potassium, également connue sous le nom de potasse ou perle. Carbonate de potassium phosphate d'aluminium et de sodium bicarbonate de sodium. Levure de levain. Vous pourriez trouver certains de ces ingrédients sur les étiquettes lors du délevage. De nos jours, de nombreux aliments emballés affichent la liste de leurs ingrédients. Voici quelques éléments qui ne sont pas des agents levants, et c'est important à moins que vous ne vouliez jeter des choses que vous n'avez pas besoin de jeter. Levure autolysée, levure de bière amidon de maïs blanc 2. Polysorbate 60 bitartrate de potassium, crème de tarte, monostéarate de sorbitan, poudre de tartrate, levure taula extrait de levure. En 1982, lors d'un sermon intitulé « Examen de la Pâque à l'ancienne Église mondiale de Dieu », Herbert Armstrong a abordé différents points et a déclaré « Frère, vous êtes censé vous repentir et avoir été baptisé. Vous n'avez pas à vous soucier de vos péchés passés. Beaucoup s'en soucient encore, certes, mais vous feriez mieux de vous préoccuper de ne plus pécher à l'avenir. Car si vous le faites, vous attirez à nouveau la punition. Avez-vous persisté dans le péché? Et bien sûr, vous êtes appelé à vous repentir. » Il a cité Actes 2, verset 38, qui exhorte à la repentance et au baptême. Puis il a ajouté, « Certains n'ont pas changé de cap. La Bible ne promet pas que l'on recevra le Saint-Esprit sans s'être repenti et baptisé. » Il a ensuite poursuivi, « Certains d'entre vous ne changent pas. Vous restez les mêmes. Vous avez accepté des doctrines ou des instructions entendues. Vous dites vouloir être bon. Vous pensez que c'est vrai et juste. Alors vous vous contentez de l'accepter au lieu de changer réellement. C'est une erreur. Cela ne vous sauvera pas et ne vous donnera pas le Saint-Esprit. » Se repentir, c'est se repentir pour changer. C'est admettre ses erreurs, reconnaître avoir mal vécu et s'engager à changer. C'est ce que nous devrions faire et c'est ce que les chrétiens devraient faire. Il existe un exemple dans la Bible concernant Simon le magicien, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Je ne vais pas lire le passage, mais en résumé, il a entendu des prédications, s'est fait baptiser, mais ne s'est pas vraiment repenti. À travers l'histoire, on a cru qu'il avait initié un mouvement apostat qui a fini par influencer ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme traditionnel, ou du moins ce que les chrétiens appellent eux-mêmes. Simon le magicien ne s'était pas repenti, même s'il affirmait y croire, s'était fait baptiser. Et vous? Vous devez vous repentir de votre ancienne vie, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Paul a reconnu sa faiblesse, mais il nous a exhortés à nous examiner nous-mêmes. Nous devons le faire. Si nous ne célébrons la Pâque qu'une fois par an, et non quotidiennement comme lors d'une messe catholique, ou hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement comme certains groupes protestants ou adventistes, c'est notamment parce que Dieu souhaite que nous prenions le temps de nous examiner et de nous contempler. Tu dis que tu te regardes tous les jours. C'est vrai que ça devient une habitude. Le processus de purification modifie donc, dans une certaine mesure, nos habitudes. Et ceux qui communient quotidiennement, ce qui est censé être la Pâque, ne purifient probablement pas leur maison tous les jours. Ils n'observent pas la fête des pains sans levain ni ce genre de choses. Dieu nous donne ses instructions et ses rappels annuels pour nous inciter à nous arrêter, à faire une pause, à porter un regard différent sur notre vie, afin de nous améliorer. Nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Nous sommes censés grandir en grâce et en connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Examinez-vous sincèrement avant la Pâque cette année. Et si vous regardez ce message les années suivantes, faites de même. Examinez-vous avant la Pâque. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a un plan annuel. Je souhaite que vous portiez un regard différent sur vous-même, que vous progressiez, que vous tendiez vers la perfection et que vous triomphiez, car c'est ce que la Bible enseigne aux chrétiens. Nous devrions tous le faire. Ici le docteur Bob Thiel pour l'Église de Dieu continue.